Excellent réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le nombre de personnes concernées par des états dépressifs a doublé entre fin septembre et début novembre. Conséquence directe du reconfinement qui est bien plus abrupte moralement. C'est même le directeur général de la santé qui le dit, vous l'entendrez.
Et puis nous rencontrerons des étudiants bien seuls dans leurs petits appartements avec des cours à distance à l'université.
Des chiffres ensuite sur les pertes des petits commerçants à cause du Covid-19 et de la crise économique. Le Conseil du commerce de France s'adresse directement à Emmanuel Macron dans une lettre. Le président prendra la parole à ce propos la semaine prochaine.
Dans ce journal aussi, nous ferons le point sur la circulation des armes françaises dans le monde. Ce matin, un rapport est rendu pour mieux encadrer les exportations.
Et puis nous irons au Proche-Orient où les Palestiniens donnent des gages à Joe Biden quand certains Israéliens donnent le nom de Donald Trump à une nouvelle colonie. Après cette édition, le traditionnel billet politique, Frédéric Seitz se penche ce matin sur l'électorat de droite au centre des convoitises pour la présidentielle. C'est la première fois que les autorités l'évoquent ouvertement en donnant des chiffres concrets. La crise sanitaire, doublée du confinement et des craintes économiques, affecte la santé mentale des Français. Elle s'est à nouveau dégradée ces derniers mois, constat dressé hier soir par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.
La crise sanitaire du Covid-19 a révélé la vulnérabilité psychique de nombreux Français. On observe ainsi une augmentation importante des états dépressifs. Le nombre de personnes concernées a en effet doublé entre fin septembre et début novembre. Cette hausse est observée dans l'ensemble de la population, mais s'avère encore plus marquée chez les personnes en situation financière très difficile, les personnes ayant des antécédents de troubles psychologiques, les inactifs et les jeunes. Il existe des conseils pour prendre soin de soi, en restant en lien et en parlant avec son entourage, en organisant et en rythmant ses journées, en limitant sa consommation d'alcool et de tabac, et enfin, en prenant soin de sa santé, il ne faut surtout jamais hésiter à consulter un professionnel.
Jérôme Salomon qui évoquait les jeunes. Un tiers des étudiants avaient déjà montré pendant le premier confinement des signes de détresse psychologique, un taux calculé par l'Observatoire de la vie étudiante. Eh bien, cet observatoire note que la situation s'aggrave cette fois pour le mois d'octobre et novembre. Lise Roseveille de France Bleu Paris s'en est rendu compte aussi lors de ce reportage.
Face à l'écran toute la journée, seul dans son appartement, Brandon n'a pas eu d'autre choix que de retourner voir son médecin.
J'ai dû redemander à mon médecin de me filer une ordonnance pour l'anxiolytique parce que je suis prisonnier de chez moi, quoi. D'être dans 18 mètres carrés, c'est pas facile, quoi.
Solitude, peur du virus, crainte de l'avenir, tout ça pèse sur les étudiants. Cynthia Naffa, en première année à la fac, n'arrive plus à travailler.
Dès que je veux me concentrer sur quelque chose, 10 minutes plus tard, je commence à penser à la situation financière, je commence à penser au Covid par rapport à mes parents, je commence à penser à tout en même temps.
Amel, de son côté, ne dort pas la nuit, elle enchaîne les cauchemars et les crises d'angoisse. Elle qui d'habitude peut se confier à sa mère, restée en Algérie.
J'arrive pas à lui dire ce qui se passe parce qu'elle va être inquiète et moi, je veux pas que ça lui arrive, voilà. Je lui dis toujours, ça va, ça marche.
Alors les étudiants se tournent vers les psychologues universitaires. Au bureau d'aide psychologique rue Pascal à Paris, le psychiatre Frédéric Adjé a vu la demande multipliée par 4 depuis le mois d'octobre.
On voit qu'ils ont été éprouvés par le premier confinement et que là, ils sont encore plus éprouvés par celui-là. Et avec, pour certains d'entre eux, des crises d'angoisse ou des crises d'angoisse quand ils essayent de sortir.
Si la situation perdure, le psychiatre craint un vrai décrochage des étudiants les plus fragiles.
Et face à la situation, le gouvernement avait annoncé la création d'ici le mois de janvier de 1600 emplois étudiants pour accompagner les néo-bacheliers et ceux qui se sentent isolés. Sur notre site franceculture.fr, retrouvez par ailleurs l'interview de la psychologue Catherine Tourette-Turgis qui estime qu'un confinement de plus de 10 jours peut causer, selon elle, des syndromes de stress post-traumatique. Mais le confinement pourrait s'alléger progressivement dans les semaines qui viennent. En tout cas, le gouvernement réfléchit à ces assouplissements car la situation est moins catastrophique que ce qu'avait prédit l'Institut Pasteur fin octobre. Emmanuel Macron devrait s'exprimer à ce propos en milieu de semaine prochaine. D'ici là, le président est sans cesse interpellé pour sauver économiquement différents secteurs. Ainsi, l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration se prépare à déposer dans la journée ce mercredi un recours devant le Conseil d'État, recours contre le décret du du 29 octobre dernier qui entérinait la fermeture des bars et des restaurants. L'organisation patronale estime être victime d'une rupture d'égalité alors que la restauration collective, elle, a encore le droit de travailler. Les commerçants, de leur côté, demandent une réouverture de leurs magasins dès le 27 novembre prochain, jour du Black Friday, grande braderie commerciale. Le Conseil du commerce de France, qui regroupe 70% des quelque 3,5 millions de salariés du secteur, le Conseil du commerce de France donc, a écrit à Emmanuel Macron. Son président William Cauberlé s'en explique au téléphone de Stanislas Vazac.
Pour l'ensemble des magasins qui ont une activité saisonnière forte, c'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit le jouet par exemple, les stocks sont là, les factures sont à payer. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas d'ouverture sur le 27 novembre par exemple, clairement, n'ayant pas de chiffres sur le mois de novembre, beaucoup d'entreprises auront des difficultés financières qui peuvent les entraîner jusqu'à la fermeture définitive. On a aujourd'hui, et je parle des magasins qui ont fermé, hein, on parle bien de ces commerces-là, c'est-à-dire qu'ils ont eu déjà le premier confinement qui aujourd'hui fait qu'ils ont perdu grosso modo une 30% de chiffre d'affaires. Là, aujourd'hui, on arrive à 20% à fin octobre, mais il faut comprendre que le mois de novembre et le mois de décembre sont les mois les plus importants pour beaucoup d'entre eux, et ça peut correspondre jusqu'à 40% dans le jouet, une 30% pour le vêtement, la parfumerie, par exemple. Donc c'est des périodes de qui sont très très importantes pour les commerçants.
Commerçants qui souhaitent donc pour beaucoup participer au Black Friday à la fin du mois, au même titre que pourra le faire Amazon. Sur France Culture, le patron d'Amazon France estimait que ce n'est, je cite, pas forcément le moment où il faut s'arrêter. L'interview de Frédéric Duval est à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. D'ailleurs, à l'approche de Noël, c'est en ligne que les acheteurs consomment. Selon l'INSEE, le reconfinement aurait provoqué une augmentation immédiate et sensible des transactions sur Internet. Il y a en novembre une chute globale de l'activité économique, mais elle est moins brutale que lors du premier confinement, moins 13% contre moins 30% en avril dernier par rapport à l'année dernière. Nous en avons parlé ici même, les craintes autour d'une possible mutation du SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19. Eh bien, à l'occasion de la journée européenne d'information sur les antibiotiques, sachez que les mutations concernent tout type de bactéries. Elles deviennent ces 20 dernières années plus résistante encore face aux antibiotiques. Il est donc vivement recommandé de diminuer l'usage de ces antibiotiques chez l'homme, mais aussi chez les animaux. Les vétérinaires sont sensibilisés à cela, notamment sur les animaux d'élevage, Tara Schlegel.
Oui, l'État les y incite fortement et l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire et alimentaire, le vérifie. Ainsi, l'exposition globale des animaux aux antibiotiques a reculé de 45% depuis 2011. Et surtout, certains antibiotiques jugés essentiels pour l'homme parce que ce sont des traitements de dernier recours, comme les céphalosporines par exemple, ont diminué de 94% depuis 2013 et même de 99% chez les vaches laitières. Jean-Pierre Auran, directeur de l'Agence du médicament vétérinaire à l'ANSES, revient sur cette petite révolution, d'autant plus remarquable que les céphalosporines sont un antibiotique très performant.
C'était parmi les plus modernes, donc les plus efficaces, à des doses très réduites. Ensuite, il y a eu beaucoup de génériques qui sont parus, qui ont fait baisser le prix. Donc, c'était vraiment des facilités pour le vétérinaire, parce qu'on avait des résultats sur des traitements faciles à administrer. La France a choisi pour la médecine vétérinaire d'être restrictive, avec des sanctions, qui imposent de faire un antibiogramme avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres antibiotiques qui sont sensibles, qu'on ne peut pas utiliser d'autres traitements.
Résultat, les vétérinaires se sont tournés vers d'anciennes molécules qui marchent et on a assisté à une baisse spectaculaire des ventes.
Donc là, on est vraiment sur une démonstration qu'une politique de santé publique peut avoir des effets immédiats.
Mais des efforts importants restent à faire, car vétérinaires et éleveurs achètent encore 422 tonnes d'antibiotiques par an pour leurs animaux. Et tout ça se retrouve dans les cours d'eau, dans les sols, et rend certaines bactéries résistantes. On se souvient de l'affaire du concombre espagnol. Finalement, il s'agissait de graines germées allemandes, mais on avait retrouvé dans une rivière à proximité des bactéries Escherichia coli devenues résistantes aux antibiotiques, et plus d'une cinquantaine de consommateurs étaient morts.
Et à propos de bactéries ou de virus transmis par l'animal à l'homme, retrouvez ce matin une longue enquête sur notre site internet à propos plus précisément de la transmission du Covid-19.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les députés ont planché pendant plusieurs heures tard hier soir sur la proposition de loi sécurité globale.
Oui, elle est portée par la majorité et elle est jugée liberticide par une partie de l'opposition. Ainsi, hier soir, quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, défendait un texte destiné, je cite, à protéger ceux qui nous protègent, le chef de file de la France insoumise dans l'hémicycle, Jean-Luc Mélenchon, estimait que la liberté reculait dans notre pays, alors que Marine Le Pen au Rassemblement National regrettait, elle, un texte qui n'est pas à la hauteur des enjeux. L'article 24 crée notamment la polémique. Il vise à encadrer la diffusion d'images des forces de l'ordre. Hier, sachez qu'un rassemblement était organisé devant le palais Bourbon. Des heurts ont éclaté dans la soirée face aux policiers. Un peu plus tôt, des milliers de manifestants étaient aussi descendus dans les rues à Lyon, Toulouse ou Rennes. Une plus grande transparence dans les ventes d'armes de la France, un contrôle renforcé. Voici en substance ce que proposent les députés Jacques Maire et Michel Tabarot dans leur rapport remis ce matin sur les exportations d'armement. La France est le troisième exportateur mondial et elle doit améliorer son image, Nathalie Hernandez.
La mission n'a pas été simple en raison du secret défense. Les députés n'ont pas pu avoir accès à tous les documents qu'ils souhaitaient. Parmi leurs conclusions, le système français de contrôle des ventes d'armes est plutôt solide, mais il mériterait d'être plus exigeant. Par exemple, en interdisant dès le départ la réexportation d'armes de petit calibre, il y en aurait actuellement 850 millions en circulation dans le monde. Ou encore, obtenir du pays client qu'il indique clairement la destination des matériels, ce qui éviterait leur détournement, comme cela avait été le cas en Égypte, où des blindés français avaient été utilisés pour réprimer des manifestations dans le pays. Le Parlement, quant à lui, doit exercer un contrôle a posteriori et ne pas se contenter seulement du rapport annuel délivré par le gouvernement. D'où la proposition de créer une délégation de députés et de sénateurs qui pourraient avoir plus d'informations et pourraient en débattre publiquement, à l'instar de ce que font d'autres pays comme la Suède, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Cette dernière dispose en effet d'une base de données, débat régulièrement de cette question et n'hésite pas à rédiger de contre-rapports.
Nathalie Hernandez. C'était l'occasion ou jamais de marquer le changement de présidence aux États-Unis et de marquer aussi son mépris pour Donald Trump. Au Proche-Orient, l'autorité palestinienne annonce qu'elle relance la coopération sécuritaire avec Israël. Et oui, cela a un rapport direct avec la Maison-Blanche, Frédéric Mettezo.
C'est le cadeau de bienvenue des Palestiniens à Joe Biden et un bras d'honneur à Donald Trump. Il y a bientôt 3 ans, quand le président américain avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, l'autorité palestinienne avait rompu tout dialogue avec Washington et en mai dernier, face au danger d'annexion d'une partie de la Cisjordanie par Israël dans le cadre du plan Trump, elle avait suspendu la coopération sécuritaire. En réalité, cette coopération n'avait pas complètement cessé, mais tout de même, la lutte commune contre le coronavirus avait été entravée et l'autorité palestinienne s'était privée du reversement de taxes douanières par Israël. L'annonce de ce rétablissement devrait donc détendre la situation en Cisjordanie et Mahmoud Abbas confirme ses bonnes dispositions envers Joe Biden, avec qui il a hâte de travailler. Il montre qu'il lui fait confiance. Le président palestinien fait comme si Trump n'était plus là et pas n'importe quand. À quelques heures de l'arrivée du chef de la diplomatie américaine en Israël, Mike Pompeo est annoncé dans une colonie israélienne de Cisjordanie, une provocation pour les Palestiniens qui ont donc répondu.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui poursuit en effet sa tournée diplomatique, il doit arriver en Israël à la mi-journée et doit visiter notamment le plateau du Golan où vous nous emmenez également Frédéric Mettezo. Sur ce territoire, il y a de fervents supporters de Donald Trump. Une nouvelle colonie portera même son nom.
Bienvenue à Ramat Trump. Les hauts de Trump. Le nom est écrit en hébreu et en anglais avec les drapeaux israéliens et américains. Gal Gafni, le vice-président du conseil régional du Golan, exulte.
In 2 months, we will have here Dans 2 mois, nous aurons 20 familles, des purs pionniers, comme on n'en voit plus en Israël, et peut-être même en Occident. Des gens qui vivront une vie confortable et viendront ici pour accomplir la grande mission sioniste historique.
Mais à quelques kilomètres de la Syrie et du Liban, dans ces montagnes qui rappellent le Larzac, l'excitation n'a pas gagné tout le monde. Eyal habite un village voisin, il milite pour l'association des Jardins du Golan.
J'ai surtout peur que les gens soient plus nombreux à s'installer ici et qu'ils construisent des grandes villes. Après les déclarations de Trump, des investisseurs américains ont déjà commencé à s'intéresser au Golan. Ça nous fait peur.
Pour David, les États-Unis risquent de relancer les tensions.
On vit avec les Druzes, tout va bien. Les problèmes, c'est seulement avec les dirigeants.
Beaucoup de gens disent que Trump a été le meilleur président américain pour Israël.
Non, plutôt le meilleur président pour Bibi, mais pas pour Israël.
Bibi Netanyahou, le premier ministre d'Israël, qui n'aurait pas le sens des priorités, selon Dina. Pour elle, la colonie Trump est une gabegie.
C'est difficile de vivre ici. On a besoin pour nous plus d'argent du gouvernement. Il a pris de l'argent qui était pour nous. C'était pour faire un geste, mais le geste coûte de l'argent.
L'annonce de la venue de Mike Pompeo ici ne déchaîne pas les passions.
C'était Frédéric Mettezo, le correspondant de France Culture au Proche-Orient pour ce dossier ce matin. Pour les dernières semaines de présidence de Donald Trump encore, le Pentagone confirme un retrait partiel des troupes américaines déployées en Irak et en Afghanistan. Un départ de moitié qui aura lieu quelques jours seulement avant la passation de pouvoir prévue entre Donald Trump et Joe Biden. Les averses arrivent par la pointe bretonne ce mercredi. D'ici là, sachez-le, le soleil devrait être généreux. Ce matin, il fait 6 degrés à Lyon, 8 à Paris, 10 degrés à Bordeaux et 13 à Perpignan, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal, il est 8h15 sur France Culture. Dans 30 minutes environ, mes camarades Hervé Gardet, Géraldine Mosnas-Savoie et Arnaud Laporte seront là. Ils évoqueront la transition, le carnet de philosophie. Et puis également, ils tenteront de comprendre à quoi pensent les artistes. Nous serons en compagnie à nouveau de notre invitée Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019. Elle publie avec Abhijit Banerjee « Économie utile pour des temps difficiles » aux éditions du Seuil. Et voici Frédéric Saïs, bonjour, pour un billet politique, Frédéric.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Oui, avant 2022, les sympathisants de la droite sont courtisés de toutes parts.